Chapitre 26. 15 mètres plus loin, Eddie se rendit compte qu'il suivait un sentier, sans doute tracé par l'ours au fil des ans. Les zones s'inclinaient pour former un tunnel au-dessus de leur tête. Les bruits avaient gagné en netteté et il commença à les distinguer les uns des autres. Il y avait parmi eux un bourdonnement sourd. Il le sentait dans ses pieds, une vibration ténue comme celle d'une énorme machine souterraine. Plus aiguë, plus proche et plus insistant, des sons entremêlés évoquant divers grattements, couinements et autres caquettements. Roland s'approcha de lui et lui parla au creux de l'oreille. « Je pense que nous ne courons aucun danger si nous restons discrets. » Ils avancèrent de 5 mètres, puis Roland fit halte une nouvelle fois. Il dégaina son revolver et écarta du canon une branche qui ployait sous le poids de ses feuilles rougies par le couchant. Eddie découvrit par cette petite ouverture la clairière où l'ours avait demeuré pendant si longtemps, la base d'opération à partir de laquelle il avait lancé ses nombreuses expéditions de terreur et de pillage. Il n'y poussait aucun fourré. Le sol était arasé depuis bien longtemps. Un ruisseau émergeait au pied d'une falaise haute d'environ 15 mètres et traversait la clairière en forme de flèche. Sur la rive où il se trouvait, adossé à la paroi rocheuse, se dressait une boîte métallique haute de près de 3 mètres. Son toit était incurvé et Eddie pensa en la voyant à une bouche de métro. Sa façade était peinte de rayures obliques noires et jaunes. Le sol de la clairière n'était pas noir comme l'humus de la forêt, mais d'un étrange gris cendré. Il était parsemé d'eau, et au bout de quelques instants, Eddie comprit que ce qu'ils avaient pris pour le sol n'était qu'un tapis d'eau, des eaux si anciens qu'ils retournaient en poussière. Des choses se déplaçaient sur cette poussière, les choses qui produisaient les bruits métalliques qui les avaient attirés. Il y en avait 5. De petites machines, pas plus grandes que des chiots bien développés. Eddie comprit que c'était des robots ou quelque chose comme ça. Elles avaient entre elles et avec l'ours, dont elles étaient de toute évidence les serviteurs, un unique point commun, la petite antenne radar qui tournait au-dessus de leur crâne. Encore des bonnets de pensée, se dit Eddie. « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce monde ?» La plus grande de ces machines ressemblait un peu au tracteur Tonka qu'on avait offert à Eddie pour son 6e ou son 7e anniversaire. Ses chenilles laissaient dans son sillage de petits nuages de poussière grise. Une autre de ces machines ressemblait à un rat en inox. Une troisième semblait être un serpent construit en segments d'acier. Elle rampait sur le sol en suivant un rythme saccadé. Elle décrivait un cercle grossier sur l'autre rive du ruisseau, tournant en rond dans le profond sillon qu'elles avaient creusé dans le sol. En les regardant, Eddie pensa au dessin humoristique qu'il avait vu dans les vieux numéros du Saturday Evening Post que sa mère avait conservé pour une raison inconnue dans l'entrée de leur appartement. Ces dessins montraient souvent des hommes anxieux, fumant cigarette sur cigarette et usant la moquette devant une salle d'accouchement. À mesure que ses yeux s'accoutumaient à la topographie toute simple de la clairière, Eddie s'aperçut qu'il y avait beaucoup plus de monstres que les 5 qu'il avait repérés. Il en distinguait au moins une bonne dizaine, et il y en avait sans doute d'autres dissimulés derrière les reliefs squelettiques des repas de l'ours. La différence, c'était que ces monstres-ci ne bougeaient pas. Les membres de la suite de l'ours étaient morts un par un au fil des ans, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 5, lesquels ne semblaient guère en bonne santé, vu la tonalité de leur couinement et de leur caquettement rauque. Le serpent, en particulier, ne semblait pas dans son assiette quand il s'avançait derrière le rat mécanique pour faire le tour du cercle. De temps en temps, la machine qui suivait le serpent, un cube métallique qui sautillait sur ses jambes courtaudes, le rattrapait et le poussait devant lui comme pour lui dire de se manier le cul. Eddie se demanda quel était leur boulot. Sûrement pas de protéger l'ours, celui-ci était conçu pour assurer sa propre protection. Et si ce vieux chardic leur était tombé dessus alors qu'il était dans sa prime jeunesse, il les aurait avalés et crachés en deux coups de cuir à peau. Peut-être que ces petits robots faisaient office de personnel d'entretien, ou de scout, ou de coursier. Ils étaient sans doute dangereux, mais seulement lorsqu'ils devaient se défendre ou défendre leur maître. Ils ne semblaient pas belliqueux pour deux sous. Ils avaient en fait quelque chose de pitoyable. La plupart d'entre eux étaient morts, leur maître avait disparu, et Eddie était persuadé qu'ils en avaient conscience. Ce n'était pas une impression de menace qui émanait d'eux, mais une étrange tristesse, inhumaine. Vieux, presque hors d'usage, ils tournaient en rond dans le sillon d'inquiétude qu'ils avaient creusé dans la clairière, roulant et se dandinant avec anxiété. Et Eddie parvenait presque à apercevoir leurs pensées agitées. « Oh, misère de misère, qu'allons-nous devenir ? À quoi servons-nous à présent qu'il a disparu ? Et qui prendra soin de nous à présent qu'il a disparu ? Oh, misère de misère !» Eddie sentit quelque chose lui tirailler la jambe et il faillit pousser un cri de peur et de surprise. Il pivota sur lui-même, arma le revolver de Rant et vit Susanna lever vers lui des yeux écarquillés. Eddie poussa un soupir de soulagement et rabaissa précautionneusement le percuteur de son arme. Il se mit à genoux, posa les mains sur les épaules de Susanna, l'embrassa sur la joue et lui murmura à l'oreille « J'étais à deux doigts de loger une balle dans ta tête de linotte. Qu'est-ce que tu fiches ici ?»« Je voulais voir. » murmura-t-elle sans se démonter. Roland s'accroupit près d'elle et elle se tourna vers lui. Et puis je commençais à avoir les chocottes, toute seule là-bas. Elle s'était égratignée en rampant parmi les fourrés pour les rejoindre, mais Roland était bien obligé d'avouer qu'elle était aussi silencieuse qu'un fantôme quand elle le voulait. Il n'avait rien entendu. Il attrapa un chiffon, le dernier vestige de sa chemise, dans sa poche revolver et étancha sur ses bras quelques gouttes de sang. Il la considéra durant quelques instants, puis nettoya également une petite plaie sur son front. « Eh bien, regarde alors, » dit-il d'une voix à peine audible. « Je pense que tu l'as bien mérité. » Il écarta les branches devant elle, ménageant une ouverture dans le buisson, puis attendit pendant qu'elle examinait le spectacle de ses yeux fascinés. Puis elle se recula, et Roland laissa retomber les branches. « J'ai presque pitié d'eux, » murmura-t-elle. « C'est dingue, non ?»« Pas le moins du monde, » répondit Roland. « Ces créatures sont emplies de tristesse à leur façon. Eddie va abréger leur souffrance. » L'intéressé secoua aussitôt la tête. Si, à moins que tu ne veuilles passer la nuit dans la jungle, comme tu dis, vise leur chapeau, les petites machines qui tournent.
Et si je les rate ?
Siffla Eddie furieux. Roland se contenta de hausser les épaules. Eddie se redressa et à contre-cœur releva une nouvelle fois le percuteur de son revolver. Il regarda les petits cerveaux-mécanismes qui tournaient en rond, suivant une orbite solitaire et insensée. « J'aurais l'impression de tirer sur des chiots, » pensa-t-il. Puis il vit l'un d'eux, le robot qui ressemblait à une boîte ambulante, faire jaillir de sa carcasse une pince à l'air méchant et la refermer sur le serpent pendant quelques instants. Le serpent émit un bourdonnement surpris et fit un petit bond. La boîte ambulante rangea sa pince.
Enfin, ce ne sont pas tout à fait des chiots, décida Eddie.
Il jeta un nouveau coup d'œil à Roland. Celui-ci le regarda d'un air totalement inexpressif, les bras croisés sur sa poitrine.
Tu choisis de drôles d'horaires pour donner tes cours, mon vieux.
Eddie revit Susanna logeant deux balles dans le cul de l'ours, puis pulvérisant son antenne alors qu'il fonçait sur elle et sur Roland,
et il eut un peu honte de lui. Et il y avait autre chose. Une partie de lui-même voulait tenter le coup, tout comme une partie de lui-même avait voulu affronter Balthazar et ses gorilles dans la tour penchée. Cette pulsion avait sans doute quelque chose de malsain, mais cela ne la rendait pas moins séduisante. Voyons voir qui s'en sortira. Ouais, voyons voir. Ouais, c'était sacrément malsain, en effet. Imagine que t'es devant un stand de tir à la carabine et que tu veux offrir un chien en peluche à ta petite amie, se dit-il, ou un ours en peluche. Il visa la boîte ambulante, puis se tourna vers Roland avec irritation en sentant la main du pistolero sur son épaule. Récite ta leçon, Eddie, et sois sincère. Eddie poussa un soupir d'impatience, troublé par cette intervention, mais comme les yeux de Roland restaient fixés sur lui, il inspira profondément et essaya de faire le vide dans son esprit. Il en chassa les couinements éraillés des petits robots presque hors d'usage, les diverses douleurs qui lui tenaillaient le corps, l'idée que Susanna l'observait dressée sur les paumes de ses mains, et, une autre idée bien plus troublante, elle était au niveau du sol, et s'il ratait un de ses gadgets, elle fournirait à celui-ci une cible idéale en cas de représailles. « Je ne tire pas avec ma main, celui qui tire avec sa main a oublié le visage de son père. »« Quelle blague » pensait-il. Il ne reconnaîtrait pas son vieux s'il venait à le croiser dans la rue. Mais il sentait les mots accomplir leur œuvre, lui éclaircir les idées et lui calmer les nerfs. Il ne savait pas s'il avait l'étoffe d'un pistolero. Cette idée lui paraissait hautement improbable, en dépit du courage qu'il avait manifesté lors de la fusillade dans le nightclub de Balthazar. Mais il savait qu'une partie de lui-même goûtait la froideur glaciale qui l'envahissait chaque fois qu'il récitait le catéchisme incroyablement ancien que leur avait appris le pistolero, la froideur qui l'envahissait et la clarté à couper le souffle avec laquelle les choses lui apparaissaient. Une autre partie de lui-même lui disait que tout cela n'était qu'une drogue meurtrière, une drogue semblable à l'héroïne qui avait tué Henry, et qui avait bien failli le tuer aussi, mais cela n'altérait en rien le plaisir intense que lui inspirait cet instant. Il sentait battre en lui un rythme pareil à celui de fils électriques secoués par un vent violent. « Je ne vise pas avec ma main, celui qui vise avec sa main a oublié le visage de son père. Je vise avec mon deuil. Je ne tue pas avec mon arme. Celui qui tue avec son arme a oublié le visage de son père. » Puis, sans avoir conscience de ce qu'il faisait, il émergea des arbres et s'adressa au robot qui tournait en rond de l'autre côté de la clairière. « Je tue avec mon cœur !» Ils interrompirent leur ronde sempiternelle. L'un d'eux poussa un bourdonnement suraigu qui était peut-être un signal d'alarme ou un avertissement. Leurs antennes radar, pas plus grosses qu'une barre de chocolat Hershey, se tournèrent vers lui à l'unisson. Eddie se mit à tirer. Les antennes explosèrent l'une après l'autre comme des pigeons d'argile. Toute pitié avait disparu du cœur d'Eddie. Il n'était habité que par cette froideur glaciale et par la certitude qu'il ne s'arrêterait pas, qu'il ne pourrait pas s'arrêter, tant qu'il n'aurait pas achevé sa tâche. Le tonnerre éclata dans la clairière obscure et rebondit sur la falaise rocheuse à son extrémité. Le serpent d'acier fit deux soubresauts dans les airs et retomba dans la poussière en tressautant. Le plus grand des mécanismes, celui qui avait évoqué à Eddie le tracteur Tonka de son enfance, tenta de s'enfuir. Eddie pulvérisa son antenne radar et il se fracassa contre la paroi du sillon. Il tomba sur le nez, tandis que des flamèches bleues jaillissaient des orbites d'acier qui abritaient ses yeux de verre. La seule antenne qu'il rata fut celle du rat en inox. La balle ricocha sur sa carapace de métal en poussant un gémissement de moustique. Le rat sortit du sillon, décrivit un demi-cercle autour de la boîte ambulante qui suivait le serpent et fonça vers l'autre côté de la clairière à une vitesse étonnante. Il émettait des cliquetis furibonds. Et lorsqu'il se rapprocha, Eddie vit qu'il avait une gueule pleine de longs crocs pointus. Il ne ressemblait pas à des dents, en fait, mais à des aiguilles de machine à coudre aux mouvements saccadés. Non, se dit-il, ces engins n'ont décidément rien à voir avec des chiots attendrissants.
Descends-le, Roland !
Cria-t-il désespérément. Mais lorsqu'il jeta un vif coup d'œil derrière lui, il vit que le pistolero avait toujours les bras croisés sur sa poitrine et que son visage était empreint d'une sérénité un peu distante. Il aurait pu être en train de réfléchir à un problème d'échec ou de repenser à de vieilles lettres d'amour. L'antenne radar du rat s'abaissa soudain. Elle changea légèrement de direction et se pointa droit sur Susanna Dean. « Il ne me reste qu'une balle, » pensa Eddie. « Si je rate cette saleté, elle va lui arracher le visage. » Au lieu de tirer, il s'avança d'un pas et shoota dans le rat. Il avait remplacé ses chaussures par une paire de mocassins en peau de cerf et il sentit l'onde de douleur monter jusqu'à son genou. Le rat poussa un couinement éraillé, tomba dans la poussière et se retrouva sur le dos. Eddie vit sur son ventre ce qui ressemblait à une dizaine de pattes mécaniques s'agitant comme des pistons. Chacune d'elles se terminait par une griffe en acier acérée. Ces griffes tournaient sur des cadrans gros comme des gommes à crayon. Une tige d'acier jaillit d'un des segments du robot et le remit aussitôt sur ses pattes. Eddie abaissa le revolver de Roland, étouffant l'impulsion qui le poussait à saisir son arme des deux mains pour la stabiliser. C'était peut-être comme ça qu'on apprenait à tirer aux flics de son monde, mais ce genre de truc n'avait pas cours ici. « Quand vous oublierez la présence de votre arme, quand vous aurez l'impression de tirer avec votre doigt, » leur avait dit Roland, « alors vous commencerez à faire quelques progrès. » Eddie appuya sur la détente. La minuscule antenne radar qui s'était remise à tourner pour localiser l'ennemi disparut dans un éclair bleu. Le rat émit un bruit étouffé, clou, et tomba raide mort. Eddie se retourna, le cœur battant aussi furieusement qu'un marteau-piqueur. Il ne s'était jamais senti aussi furieux depuis qu'il s'était rendu compte que Roland comptait le garder dans ce monde jusqu'à ce qu'il ait définitivement gagné ou perdu sa putain de tour, en d'autres termes, probablement, jusqu'à ce qu'ils servent tous de petit déjeuner aux asticots. Il braqua son arme vide sur le cœur de Roland et prit la parole d'une voix rauque dans laquelle il avait peine à reconnaître la sienne. « S'il me restait une balle dans le barillet, tu pourrais cesser, illico, de t'inquiéter au sujet de ta satanée tour. »«
Arrête, Eddie !»
dit sèchement Susanna. Il se tourna vers elle.
« Ce machin fonçait sur toi, Susanna, il avait l'intention de te transformer en hamburger. » « Mais il n'est pas arrivé jusqu'à moi. Tu l'as eu, Eddie. Tu l'as eu. »
« Ce n'est pas grâce à lui. » Eddie fit mine de rengainer son arme, puis s'aperçut, écœuré, qu'il n'avait pas d'étui où la glisser. C'était Susanna qui avait l'étui. « Lui et ses leçons. Lui et ses foutus leçons. »
L'expression vaguement intéressée qu'affichait Roland s'altéra soudain. Ses yeux se posèrent sur un point situé au-dessus de l'épaule gauche d'Eddie.
« Baisse-toi »
hurla-t-il. Eddie ne perdit pas de temps à poser des questions. Rage et confusion disparurent instantanément de son esprit. Il se laissa tomber et vit simultanément la main gauche du pistolero descendre en un éclair vers son revolver. « Mon Dieu » pensa-t-il dans sa chute. « Il ne peut pas être rapide à ce point. Je suis pas mauvais, mais j'ai l'air d'un balourd à côté de Susanna et à côté de lui. » Susanna ressemble à une tortue en train d'escalader une vitre. Quelque chose passa au-dessus de sa tête, quelque chose qui poussa un couinement de rage mécanique et lui arracha une touffe de cheveux. Puis le pistolero tira, le revolver calé contre sa hanche. Trois détonations retentirent et les couinements cessèrent net. Une créature ressemblant à une chauve-souris mécanique s'effondra à mi-chemin d'Eddie, couchée par terre. Et de Susanna, agenouillée près de Roland. Une de ses ailes segmentées et constellées de rouille battit faiblement sur le sol, comme pour manifester sa colère, puis s'immobilisa. Roland se dirigea vers Eddie, foulant souplement le sol de ses vieilles bottes. Il tendit une main. Eddie la prit et laissa Brant l'aider à se relever. Il avait le souffle coupé et s'aperçut qu'il était incapable de prononcer un mot. « Ça vaut sans doute mieux, » se dit-il. « Chaque fois qu'on ouvre la bouche, on dirait que c'est pour sortir une connerie. »«
Eddie, ça va ?»
Susanna traversait la clairière pour le rejoindre. Il avait la tête basse, les mains plantées sur les cuisses, et s'efforçait de respirer.
« Ouais !»
On aurait dit un croassement. Il se redressa avec peine.
« Je me suis fait couper les tifs, c'est tout. »
« Il était caché dans un arbre, » dit posément Roland. « Je ne l'ai pas vu tout de suite, moi non plus. La lumière vous joue des tours à cette heure de la journée. » Il marqua une pause, puis reprit, toujours sur le même ton. « Elle ne courait aucun danger, Eddie. » L'intéressé hocha la tête. Roland aurait eu le temps de manger un hamburger et de boire un milkshake avant de commencer à dégainer. Il était vraiment rapide.
D'accord. Disons simplement que je désapprouve tes conceptions pédagogiques, ok? Mais ne compte pas sur moi pour te présenter des excuses. Si tu en attends, te fatigue plus. C'est inutile.
Roland se pencha, prit Susanna dans ses bras et entreprit de l'épousseter. Il agissait avec une sorte d'affection détachée, comme une mère nettoyant son bébé après qu'il se soit cassé la figure en essayant de marcher dans le jardin.
« Tes excuses ne sont ni attendues ni nécessaires, » dit-il. « Susanna et moi avons eu une discussion semblable à celle-ci il y a 2 jours, n'est-ce pas, Susanna ?»
Elle acquiesça.
Roland est d'avis que les apprentis pistolérons ont besoin d'un bon coup de pied au cul de temps en temps.
Eddie parcourut du regard les machines massacrées et commença lentement à épousseter sa chemise et son pantalon.
« Et si je te disais que je ne veux pas devenir un pistolero, Roland, mon vieux ?»«
Je dirais que ce que tu veux n'a pas grande importance. » Roland contemplait le kiosque de métal qui se dressait devant la paroi rocheuse, ayant apparemment perdu tout intérêt pour la conversation. Cette scène était familière à Eddie. Chaque fois que la conversation se déroulait au conditionnel, Roland perdait toujours tout intérêt pour elle.
« Le cas ?»
demanda Eddie avec un soupçon de sa vieille amertume.
« C'est exact. Le cas. »
Roland se dirigea vers le kiosque et passa une main sur les rayures jaunes et noires qui décoraient sa façade.
« Nous avons trouvé un des 12 portails qui encerclent et délimitent l'extrémité du monde. Une des 6 pistes qui mènent à la tour sombre. Et ça aussi, c'est le cas. »